Bonjour tout le monde, merci d'avoir cliqué sur ce podcast, le racketeur Mascoutin. Je vous dis, vous allez être servis en sports hivernaux parce que ce podcast-ci prend le temps d'aller découvrir les différentes facettes de l'hiver québécois et surtout des athlètes bien d'ici. À vos écouteurs, je vous le dis, vous allez avoir beaucoup de plaisir et amusez-vous car cet hiver, on prend le temps d'aller profiter de sa cour arrière et des tapis blancs qui se retrouvent tout près de chez nous. Aujourd'hui, on rencontre nul autre qu'Isabelle Bernier, une amoureuse des mots et de la nature qui prend plaisir à dévorer chacun des kilomètres au menu sur son programme d'entraînement. Attachez votre sucre avec la broche. Allons rencontrer Isabelle Bernier. Donc, bonjour Isabelle.
Bonjour.
Et je suis vraiment content que tu aies accepté parce que je peux te dire avec honneur que tu es la première femme qui vient briser la glace au podcast du racketeur.
Et ça me fait vraiment plaisir.
Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va aller faire un peu un tour des différents créneaux qui entourent le portrait d'Isabelle Bernier. Puis on va aller un peu donner la passion parce que je pense qu'il y en a plusieurs passions qui gravitent autour de ta personne. Puis on va aller de fil en aiguille voir un peu les différents sujets que j'ai réservés pour toi. Ça te convient?
Tout à fait. Ça me fait très plaisir.
Donc, pour les gens qui n'ont pas la chance ou qui n'ont pas eu la chance de croiser un des ouvrages que tu as écrit ou du moins un article parmi les milliers qui a paru, est-ce que tu pourrais te présenter pour que les gens puissent savoir un peu t'es qui?
Oui, je m'appelle Isabelle Bernier déjà. J'habite actuellement en Estrie, donc dans les cantons de l'Est, à Offord plus précisément, notamment pour être près de la montagne et du parc national. Mais c'est vraiment, vraiment un beau coin. Puis sinon, je dirais que ce que beaucoup de gens découvrent en allant fureter en ligne, c'est un peu mes aventures à travers la course. Je crois. On m'a équipée pour faire du skimo il y a 3 ans et demi maintenant, donc j'en parle. Oui, j'écris à ce sujet ponctuellement aussi. J'ai travaillé dans plusieurs domaines, dont l'enseignement. Alors, c'est un peu tout ça là, qui ressort là, dans le bagage. En fait, ça pourrait être très long, mais on va commencer par ça.
Excellent. Donc, le podcast du racketeur, c'est un peu pour les amoureux des sports d'hiver. Je sais que tu fais de la course à pied, que tu as commencé récemment du skimo, puis tu as fait aussi du ski de fond. Qu'est-ce qui t'a amené un peu à un, aimer la pratique des sports, puis un peu te diriger vers Offord, qui est un paradis, je pense, pour les gens qui aiment les sports en sentier?
Oui. Dans la vie, là, ce qui m'a amené à la pratique du sport, simplement au départ, là, j'ai toujours été une personne qui aimait bouger, puis ça m'a toujours fait du bien. C'est sûr que on peut aller chercher de la performance, on peut aller chercher un esprit méditatif. Et il y a comme tellement de dimensions de la vie, je pense, qu'on peut appliquer au sport. Mais je crois que quand on s'y met, bien, on se rend compte à quel point ça peut nous aider dans l'équilibre. Maintenant, si on en parle ou pas éventuellement, là, je sais qu'on peut aussi se rendre dans le déséquilibre, mais pour moi, c'est vraiment l'amour de bouger, d'être dehors aussi. J'adore ça. J'ai grandi avec un papa qui m'amenait beaucoup en ski de fond. Après, j'étais dans les cadets. J'ai eu l'opportunité de faire beaucoup de choses dehors, là, incluant biathlon, survie et compagnie. Là. C'était vraiment au programme. Puis, j'ai continué. J'ai toujours un peu couru avec ça là-dedans, l'athlétisme et puis la course en ultra qui est arrivée éventuellement, bien, ça répondait vraiment à mon amour et mon besoin de dépassement puis de connexion avec la nature. Puis sinon, à propos d'Offord, bien, effectivement, je me suis quand même pas mal promenée. Là. Pour certains, je suis plus âgée, mais pour d'autres, à mi-chemin dans la vie. J'espère que je ne suis même pas à mi-chemin encore, mais on verra. Et puis, c'est ça. J'ai découvert plusieurs régions, plusieurs pays. Puis je dois avouer que le jour où j'ai mis le pied en Estrie, j'ai eu un énorme coup de cœur. Je trouve que, tu sais, on a la montagne, c'est ça, la forêt, les lacs. Il y a tellement de possibilités à proximité. T'sais, en ce moment, moi, je peux partir de chez moi puis le nombre d'heures que je veux, là, puis être dehors. Il faut juste que je me cache des petits ravitaillements. Mais les possibilités sont incroyables, 4 saisons. Là. Et en course et en ski, à la nage, c'est fou, là, l'escalade, il y a de tout.
Puis, parmi ces différents sports-là, tu pratiques les ultras. Moi, ce qui m'intéresse par rapport à ça, c'est à chaque fois que je croise des gens qui font des ultras, tantôt tu as abordé l'aspect méditatif. Est-ce que les ultras rentrent dans cet aspect-là? Parce que souvent, les gens vont les prendre en partie ou chaque personne un peu son combat, comment ils vont préparer leur volume d'entraînement pour affronter des grandes distances comme ça. C'est quoi ta recette que toi, tu utilises pour réussir à parcourir cette distance-là?
Bien, je me fais toujours un plan, mais c'est sûr que avec l'expérience aussi, je me rends compte que j'ai développé le... Je pense qu'on n'a pas le choix, quelque part, d'une expérience comme ça, d'être prête à ce que tout change. Un petit facteur, une variable peut apporter un imprévu ou un lot d'imprévus. Ça peut devenir phénoménal, donc il faut être prêt à tout. Puis sinon, oui, je pense que ça doit faire partie des choses que j'apprécie. T'sais, à un moment donné, notre corps, mais c'est sûr qu'après, ça dépend de la distance, de notre préparation, de notre état d'esprit, de notre état physique au moment où on prend le départ, quand on parle d'une course chronométrée, là, mais j'apprécie cette espèce d'effet de bascule-là. Notre corps souffre jusqu'à un certain point, puis à un moment donné, on se dit qu'on n'en peut plus. Puis probablement que les athlètes en puissance le vivent ça aussi. Puis là, à un moment donné, ça, il y a un effet de bascule, puis ça devient très psychologique. Puis je pense que tous ceux qui le vivent vont le dire, là, puis c'est... Moi, je trouve ça fascinant. En même temps, tu sais, ça ne me dérange pas de partir longtemps. J'aime ça. Je ne trouverai pas ça long. Comme un 42 km, pour moi, ça commence juste à être le fun. C'est ça.
Tu as eu la chance de faire plusieurs départs de course un peu à travers le globe. Y a-tu un épisode qui t'a vraiment marqué ou du moins t'a dit soit je pensais pas m'en sortir pour me rendre jusqu'à la fin parce qu'on arrive souvent dans les longues distances, des fois c'est moins bien balisé, on peut se perdre ou dans d'autres pays c'est pas aussi formel que du côté nord-américain ou les grandes courses en Europe. Comment on navigue avec ça? Fait, as-tu une expérience que tu pourrais nous partager?
Ben peut-être celle dont j'ai pas tant parlé encore, là, la dernière, là, au niveau des courses officielles, la Diagonale des Fous à l'île de la Réunion. Moi, je suis pas arrivée dans les conditions physiques optimales. Là. Je m'étais blessée, j'avais une commotion, etc. Mais je voulais quand même prendre le départ. D'ailleurs, je vais y retourner. Mais ça m'a marqué parce que c'est ça, j'avais pas anticipé jusqu'à quel point je ressentirais les effets de ça. J'ai été très optimiste, même si j'avais plusieurs scénarios, mais il a vraiment fallu éventuellement que je réévalue mes objectifs. Puis j'ai fait un choix où à certains moments, je me suis dit que j'avais abandonné ma course, mais j'ai fait un choix par solidarité, je pense, puis qui j'avais écrit là-dessus, là, qui m'a permis de connaître d'autres personnes, puis de vivre une course autrement. Là, ça a vraiment apporté une autre conception, peut-être, de ce milieu-là. La difficulté, je sais que beaucoup là, sont presque terrorisés par les histoires à propos de la course ou le niveau de difficulté, mais ça, je dirais, c'est très, très, très faisable. Il faut juste être bien préparé, puis bien s'entourer. Mais je dirais que ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que, c'est ça, il y a plein de préconceptions que j'avais par rapport à mes exigences envers moi-même, que j'ai moi-même détruites, là, sur place, et qui ont été démolies peu à peu, là. Puis je pense que c'est bien, tu sais, là, ça fait un petit peu plus qu'un an, là, ça m'a permis de prendre un recul, puis je crois que, tu sais, que ce soit quand je retournerai là ou que je prendrai le départ d'une autre course, et je vais avoir peut-être un morceau de casse-tête, de philosophie qui va être différent, tu sais, puis je pense que ça nous renforce.
Ah, définitivement, c'est sûr, des fois, ça ne peut pas toujours aller aussi bien qu'on le croit dans une course. Puis, des fois, en prendre conscience pendant un moment qu'on dit, ben ça compte, puis ça peut déboussoler quelqu'un vraiment beaucoup.
Oui, parce que, effectivement, là, j'avais le choix au moment où j'ai vraiment réalisé ça, j'avais le choix d'arrêter ma course, comme certains de mes collègues l'ont fait, ou de continuer. Puis moi, j'ai trouvé ça important de continuer. Là. Puis je suis quand même heureuse de l'avoir vécu.
Pour des gens qui voudraient commencer des ultras, aurais-tu une piste de conseil pour les aiguiller pour commencer ce sport-là? Parce qu'on ne se pense pas du jour au lendemain à vouloir faire des ultras sans trop avoir d'éléments en poche, non?
Non, effectivement, ben c'est une des choses qui revient là. Puis tu sais, il y a un gros engouement, hein, donc je le vois beaucoup là. J'accompagne aussi des gens ici, puis c'est des questionnements qui ressortent. Je dirais, prendre son temps. Je pense que tout le monde pourrait aller dans ce sens-là, vraiment prendre son temps, puis s'écouter. Écouter son corps, pas hésiter à poser des questions. Tu sais, il y en a qui vont se faire guider par un professionnel, il y en a qui vont commencer simplement, tu sais, justement en allant chercher des références puis en se renseignant. Mais il y a plusieurs approches qui sont bonnes, mais je pense que l'essentiel, c'est d'y aller progressivement puis de se dire que c'est quelque chose qui se développe. Tu sais, j'avais un coach qui me suivait, qui me répétait, c'est la constance. Tu sais, l'important, c'est la constance. C'est pas que tu fasses 150 km par semaine, c'est d'être constant. Puis si ça prend X nombre d'années, bien, c'est pas grave parce que tu vas y arriver puis être plus fort, plus forte. Parce qu'il y a toutes des questions musculaires, des questions de repos. Puis la plupart des gens ont une vie autre que juste la pratique de ce sport-là.
Définitivement. Puis la chose qui m'accroche beaucoup dans ce que tu viens de nous partager, c'est la constance. Très souvent, les gens, ils vont regarder. Les gens sur le podium, ils ont encore gagné, mais ce qu'ils voient très peu, c'est le nombre de petits blocs qu'on a mis en dessous pour construire cette fondation-là, parce qu'on peut monter très vite à des hauts sommets, mais on peut les redescendre aussi vite qu'on les,
ouais.
qu'on les a dans la vie. Puis en allant étape par étape, ça évite surtout les blessures, puis garder un certain moral, parce que faire les ultras, pour en parler avec d'autres personnes, faire des semaines avec un gros volume d'entraînement, c'est pas toujours autant agréable qu'on pense. Mais c'est une fois qu'on est sorti, souvent le sourire revient très vite. Mais comment on fait pour garder la motivation? Parce que le calendrier, des fois, il peut quand même être assez long. Ça peut prendre plusieurs mois pour arriver, exemple, à la Diagonale des Fous pour ne pas arriver là avec rien en main puis de se casser un peu la figure devant ce mur-là. Là.
Oui, bien, je pense qu'un des secrets, à mon avis, c'est d'y aller un moment à la fois. C'est quelque chose que. Comme je le disais tout à l'heure, là, à peu près tout ce que je vis dans la course, je le transpose dans la vie. Puis parce que c'est vraiment des éléments que je trouve importants. Il faut y aller un moment, un jour à la fois. Donc, on a notre planification, puis on sait où on s'en va. Mais on a besoin, comme dans la vie, de rester ouvert au fait que, et pour l'entraînement, comme pour la course, il peut y avoir des imprévus, il peut y avoir des changements. Souvent on peut être porté à se taper sur la tête parce que ça ne va pas comme on veut, mais je pense qu'on se rappelle tout le temps que ça va porter ses fruits. Puis des fois, une semaine peut sembler lourde ou longue ou vraiment pas amusante, mais il y a toujours quelque chose au bout de la ligne. Puis dans les discussions que j'ai eues dans la dernière année aussi, ce qui revenait, c'est sûrement applicable à la plupart des gens qui se dédient à un sport en particulier ou à plusieurs, là, mais ça devient un mode de vie. Après, c'est pas juste ce moment-là où tu t'entraînes, c'est ton déjeuner, ton dodo, comment tu va gérer le reste de ton quotidien qui va avoir un impact aussi. Puis tout ça, bien, se tisse, là, ça devient vraiment un tout. Puis c'est super important. Donc, je pense qu'il y a amplement à s'occuper de gérer tout ce qu'on vit à travers ça, un moment, une semaine à la fois pour se rendre à un événement. Puis peut-être qu'avec justement l'année qu'on vient de vivre, bien, il faut demeurer ouverte au fait que ça peut changer. Puis que si ça change, bien, ça ne nous empêche pas d'envisager autre chose. Là. Voilà.
C'est pas toujours évident, mais si on se met dans la peau d'Isabelle pendant une journée, ça pourrait ressembler à quoi une journée type?
C'est une bonne question!
Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont défini en disant que tu n'aimes pas la monotonie de la routine, mais ça pourrait ressembler à quoi?
J'ai des préférences, mais le principe de base, parce que j'ai une routine familiale qui n'est pas toujours facile, c'est j'ai besoin d'être prête à changer les choses rapidement. Donc, s'il y a justement un changement, ce qui arrive assez souvent ici. Donc, moi, j'adore me lever très, très tôt. Là, on est un petit peu limité pour moi, mais presque 5 heures, c'est pas si pire. Donc, j'aime beaucoup me lever tôt, partir, puis t'sais, courir ou skier avec le lever du soleil. Là, je trouve ça formidable. Par contre, ça implique aussi qu'il faut que j'arrive à dormir à une heure qui est raisonnable. Puis il arrive que, oui, j'aime faire des doubles sorties, mais là, ça va être fonction effectivement de à quoi va ressembler ma routine d'une semaine. Puis c'est pas toujours la même chose, effectivement. Je vais tenir mes temps, je vais remplir mes objectifs, mais ça peut fluctuer. L'heure du midi, ben on oublie ça parce que je ne m'assois pas souvent dans ma journée. Donc, les choses sont. Disons que le temps se remplit très vite. Moi, je suis du genre à, si on pouvait avoir 48 heures dans une journée, ce serait vraiment le fun.
Faudrait se mettre à nu avec mon Harry Potter, avec le fameux retourneur de temps d'Hermione Granger. Je pense que tout le monde aimerait ça avoir ça pas trop loin dans leur poche pour compléter leur journée au complet.
Oui, effectivement. Ou pourquoi faut-il dormir? Mais bon, ça c'est. Mais c'est ça. Donc, c'est de placer les choses. En même temps, j'adore courir de soir, j'adore courir la nuit. Je sais que pour plusieurs, là, c'est un défi, mais moi, je suis une adepte du calme. Puis de vraiment rentrer dans ma bulle. Donc, pour moi, là, tous ces moments-là sont assez magiques aussi.
Définitivement, je suis du même avis. Je suis un coureur aussi qui aime bien y aller en soirée. Puis le couvre-feu actuellement change un peu la donne, mais on devient aussi à l'inverse. On peut trouver la même joie, la quiétude le matin. Puis on peut trouver une façon de s'arranger.
Oui, effectivement, on s'adapte, c'est ça.
Exactement, on n'a pas le choix. Ça va être la continuité pour les prochains mois aussi, là, mais ça, c'est seul l'avenir le sait. C'est beaucoup titillé mon attention. Ça a l'air que tu as une bonne plume. J'ai pu voir quelques ouvrages que tu as écrits, puis aller en survoler quelques-uns rapidement. Ça vient d'où cette passion-là d'écrire puis de partager, parce que c'est des sujets intéressants, puis une clientèle que je ne m'attendais pas nécessairement non plus. Est-ce que tu t'adressais peut-être avec le passé d'enseignante? Ça partit de où, ça, cette passion-là?
Honnêtement, ça a toujours été là. Autant que aimer jouer dehors, là, ça a toujours été là. J'ai peut-être été avantagée dans le sens où j'ai fréquenté là, une école française, une école internationale, avec les déplacements de mes parents là, quand j'étais enfant. Donc, probablement que l'aspect de la langue a été enrichi à travers ça. Mais sinon, ça a toujours été une façon facile pour moi de m'exprimer. Puis, ben, j'ai poursuivi mes études là-dedans aussi. Donc, j'ai pu explorer plusieurs terrains. Puis, si on me demande de collaborer dans toutes sortes de contextes, là, journaliste, poésie, c'est ça, j'ai mon blog, j'ai mes ouvrages. D'ailleurs, j'ai terminé un autre manuscrit. C'est comme si ça coule. Je me dis des fois que j'ai pas tellement de mérite parce que, puis, tu sais, Oui, j'enseignais en art et en français. Je sais que beaucoup vivent ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche, mais moi, j'aime la page blanche.
C'est la
Donc,
motivation.
c'est ça. Donc, je trouve que c'est une formidable façon aussi d'aller toucher à des dimensions que, ben, en fonction de nos cultures, on ne va pas nécessairement adresser facilement. Puis, tu sais, pour avoir voyagé un petit peu, je trouve que, tu sais, il y a beaucoup de choses que, parce qu'on veut bien faire puis être poli, ben on en retient encore beaucoup, à mon sens, là, collectivement, là, en tant que société. Donc, j'aime beaucoup adresser les sujets qui sont peut-être encore un peu tabous ou moins populaires. Puis, j'ai pas l'attente que j'aimerais ça, là, que plein de millions de gens lisent. En fait, ça fait partie de mes objectifs, mais j'ai pas cette attente-là. Je veux partager parce que je le sens. Je le fais parce que je le sens. Autant j'apprécie de plus en plus le communiquer à l'oral, mais je pense que c'est ça. C'est des publics puis des façons différentes de communiquer. Autant je me le permettais pas quand il y a plusieurs années, autant pour moi, ça me semble fondamental de plus en plus de communiquer.
C'est sûr. Puis moi, je trouve que c'est un peu mes visions là, avec la course en raquette. Là, je dis souvent, un peu taper son chemin sur une page blanche, un peu la neige. Moi, j'aime ça être le premier
ouais.
sentier, puis faire son propre trajet, puis faire des liens avec ça. Parce que le vecteur, moi, je trouve, de la communication, de repartager un peu sa passion avec les jeunes ou avec nos collègues et autres, je trouve que c'est ce qui fait naître un peu la magie à travers la pratique des sports. Puis c'est peut-être ça qui manque pour certains gens distanciés avec la pandémie, mais le fait d'avoir au bout d'un crayon, au bout de sa plume, des histoires à raconter comme ça, je trouve que c'est vraiment un créneau qui est vraiment intéressant. Puis tu participes aussi des fois avec des articles avec Distance Plus.
Oui.
Ça fait-tu, comment la connexion s'est faite?
C'est au besoin. C'est sûr qu'avec la pandémie, là, il y a eu moins d'événements, donc moins d'articles à rédiger. Puis c'est quand même une occupation bénévole, donc ça va en fonction de nos disponibilités. Puis sinon, ben au niveau de la connexion, tu sais, comment ça s'est produit, c'était vraiment... je pense qu'éventuellement, j'ai rencontré Vincent lors d'une course, puis je lui ai exprimé que j'aimerais ça. Puis ça s'est fait.
Donc, la connexion s'est faite tout seul, puis après ça, les liens se sont entamés un après l'autre.
Oui.
Puis sinon, ce vecteur aussi dans l'implication communautaire, je sais qu'une des fondations que je pense pas mal tout le monde connaît en Estrie, qui est au niveau de Christian Vachon.
Le oui.
Lien, comment avec cette fondation-là? C'est eux qui sont venus t'approcher, le coup de foudre s'est fait?
non, en fait, moi, quand je suis arrivée en Estrie, j'ai reçu de l'aide, en fait, mes enfants ont reçu de l'aide de la fondation. C'est comme ça que, de fil en aiguille, là, j'ai écrit un petit peu pour eux, des beaux échanges, puis ça m'a toujours beaucoup émue, puis je voulais redonner, donc par mes actions, tu sais. Je serai pas nécessairement toujours celle qui va avoir l'équipe qui va financer le plus, là, mais je pense que c'est par nos petits gestes que ça se passe, tu sais, puis c'est vraiment ici, c'est comme une institution, là, ça se produit à chaque année, c'est tout un mouvement, de plus en plus d'écoles et d'enfants sont supportés, donc voilà.
C'est un très beau mouvement, puis c'était d'autres chapeaux aussi, là, impliqués avec la clinique du coureur, avec certains gens comme ça. Y a-t-il une façon qu'on peut te suivre ou du moins, tantôt, de parler de ton blog qui est vraiment très bien écrit pour en avoir vraiment feuilleté pendant plusieurs
Merci.
Temps les différentes pages, parce que c'est vraiment pour les gens, là, je vous le dis, ça vaut le détour. Au lieu d'aller fouiller sur Facebook, Twitter, les choses comme ça, là, prenez le temps de lire de la qualité. La clinique du coureur, eux, c'est-tu un peu comme ça aussi, ça s'est fait, le lien?
Comment ça s'est fait? À la base, je suivais un peu là, à travers les cours, justement, les podiums ici et ça, là, j'avais une connaissance, mais bien que c'est beaucoup à Québec, mais ça s'est vraiment agrandi là, à l'international aussi. Puis, je dirais, l'engagement officiel, éventuellement, j'ai su qu'il y avait une équipe de la clinique qui allait à la Diagonale. Puis, je me suis renseignée auprès des gens là-bas là, qui travaillaient dans l'équipe. Puis, j'ai posé des questions et tout ça. Puis, éventuellement, on m'a offert de prendre part à la course avec le groupe. Puis, tu sais, aussi de représenter la clinique. Donc, c'est comme ça que ça a évolué.
Excellent. Félicitations.
Merci.
Sinon, moi, ce qui m'intrigue tout le temps, c'est au niveau quand on amorce de faire des épreuves de longue distance. Exemple, un peu le chouchou qu'il y a eu cette année, c'est le défi Everesting, donc courir la hauteur du dénivelé du Mont Everest dans sa cour arrière.
Oui.
Comment on embarque dans ces projets-là qui sont un peu utopiques pour certaines personnes ou du moins qui semblent invraisemblables? C'est on les crée, on embarque dans le mouvement, on veut innover. Qu'est-ce qui se passe entre nos deux oreilles pour qu'on vienne embarquer dans un défi comme ça?
Et comment ça s'est passé au départ? Je me rappelle même plus comment. Je crois que c'est à travers les échanges que, justement, au sujet des courses et des projets, c'est avec la Solidaire Course. Au début que c'est arrivé, la rencontre virtuelle là, avec Yvan Lheureux et l'équipe du Défi Everest. Puis, c'était un petit peu. Là, tout ça était en chemin. Puis j'ai toujours beaucoup aimé faire du dénivelé aussi. C'est au contact des gens. J'étais déjà dans ce genre de projet-là. Puis je me suis simplement laissée emballer finalement. T'sais, on a tellement de belles montagnes ici, là. T'sais, je pense que ça fait partie aussi là, Ben, c'est des choses que j'ai l'occasion de pratiquer beaucoup, là, l'entraînement en dénivelé. Donc, puis le paysage est majestueux. Là, donc, il y a un effort qui est quand même particulier, mais en même temps, on est tellement récompensé. C'était une autre façon de se dépasser. Puis en même temps, ben, pour une belle cause, puis pour moi de m'engager là-dedans l'été dernier, c'était vraiment de pouvoir encourager les gens à le faire aussi à leur façon, parce que je sais que tout le monde a ses capacités, ses possibilités, justement ses désirs, ses objectifs, ses limites. Donc, je voulais que chacun puisse se sentir interpellé dans la mesure de son possible. Puis je pense que ça a eu un bel impact parce que ça a été quand même, malgré tout ce qui se produit, là, une belle vague là, à l'automne.
Puis après avoir fait des défis qui demandent quand même un grand effort physique, comment on a un peu effleuré ce sujet-là, comment on récupère de ça? Souvent, les gens, c'est des amoureux de l'adrénaline, fait que très souvent, ils coupent puis ils recommencent assez vite, mais pour certaines personnes, ça fonctionne, mais un monsieur, madame, tout le monde qui fait un grand défi comme ça, il dit « Ah, mais lui, il a recommencé plus tôt, puis là, les blessures viennent ». As-tu un peu une petite recette ou du moins quelques conseils qu'on pourrait mettre pas trop loin dans la poche de quelqu'un pour dire « Bon, ben on a déjà vécu ça, je te le conseille pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire? »
Bien, c'est comme n'importe quelle activité, là, il faut penser qu'il y a toujours un impact. Puis je pense qu'on le voit quand on le fait. C'est souvent, si on parle du tronc, on termine, on a les pieds enflés. Il va y avoir toutes sortes de douleurs. La nuit qui suit, c'est sûr qu'on ne dort pas bien, mais après, généralement, la fatigue se fait sentir. Donc, je dirais encore la base, c'est d'être à l'écoute. Puis, il va y avoir un high, là, c'est sûr, après, mais ça retombe toujours. Puis là, il y en a qui se sentent déprimés, tout ça. Mais je pense que c'est très hormonal aussi. Puis, il faut juste prendre le temps. Puis, c'est difficile, même quand on a un coach, un professionnel qui nous accompagne pour beaucoup. Puis, je l'ai fait aussi, cette expérience-là, tu sais, oui, on veut couper, puis on veut continuer parce que ça nous nourrit là, en même temps, à plein niveau. Mais faut penser que quand on prend le temps d'arrêter puis de respecter ce qui est là au plan, ben ça va payer aussi là. Ça va juste être plus rentable au bout de la ligne. Puis c'est en même temps, ça permet de prendre du recul par rapport à ce qu'on vient de vivre.
Oh non, c'est certain. Puis moi, j'aimerais ça aborder des fois cet aspect-là. Je sais que ça touche autant les hommes que les femmes. Ça touche souvent aussi les gens qui font des épreuves soit artistiques ou qui demandent beaucoup une endurance phénoménale. Au niveau de la santé, pour ce qui est de la nutrition et tout, je sais que c'est tout le temps délicat. C'est pas toujours, des fois, faire face à ça. Ça demande beaucoup de courage et surtout de constance à prendre tout ça en charge. T'as-tu des ressources ou des gens comment on peut faire pour passer à travers de ça sans aller trop en détail, mais pour s'aider à sortir de ça parce que c'est un fléau que les gens souvent ils mettent de côté. Puis on n'ose pas nécessairement aborder la personne qu'on croise parce que la course à pied, on évolue rapidement. Puis quand on perd du poids, veut pas au début. Ben, on devient meilleur, mais des fois, à un moment donné, ça devient la ligne rouge est quand même très mince.
Ben, c'est ça. C'est quelque chose qui peut devenir enivrant parce qu'on voit justement que notre corps change. T'sais, si c'est nouveau dans notre mode de vie, puis qu'on va vraiment chercher des dimensions qui nous étaient moins familières et qu'on n'a pas connues avant, je pense que c'est ça. Ça peut devenir très enivrant, puis en même temps, qu'on soit habitué ou pas, tu sais, l'aspect performance, justement, vient jouer sur notre image corporelle. C'est sûr que, tout à l'heure, je le disais, là, c'est hormonal aussi, quand on bouge, tu sais, nos endorphines, et, là, je ferai pas un cours de bio, là, mais tout ça entre en jeu. Donc, c'est sûr que ça a un impact important. Puis, je dirais, t'sais, encore là, il ne faut pas gêner d'aller poser des questions puis chercher de l'aide, même si c'est juste T'sais, un conseil rapide de communiquer ce qu'on vit puis qu'on sent, ou si on a un doute, ça peut vraiment rendre service, parce que j'ai l'impression que plusieurs d'entre nous, là, ça fait comme un build-up, là, on continue, c'est comme les blessures, t'sais, on se dit ah, c'est pas si grave, puis là on emmagasine, c'est comme, admettons, la carence en fer, t'sais, ça paraît pas si pire que ça. Sauf qu'au moment où on est dans le fond du puits, donc où on va être vraiment en carence, puis ça peut se produire pour plein de choses, bien, c'est pas qu'il est trop tard, mais c'est que ça ne sera pas remis sur pied puis à 100% demain matin. Donc, faut penser que c'est comme n'importe quoi, puis comme tu disais tout à l'heure, un petit bloc à la fois qu'on va empiler, puis qu'on va structurer, qu'on va placer, c'est créer une fondation. Donc, c'est ultra important, parce que notre corps est un trésor. T'sais, on le prend souvent comme un outil ou une. Souvent, quand on rit les uns avec les autres, on se dit ah, une machine, tu sais. Mais c'est ultra puissant, mais en même temps, c'est ultra fragile. Puis c'est intéressant parce que je lis beaucoup, beaucoup là-dessus en ce moment, aussi à propos du système intestinal et tout ça. Puis il y a tellement de dimensions qui sont méconnues. Donc, je pense qu'il faut vraiment oser être curieux, puis oser aller chercher, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on croit qui vivent toutes sortes de malaises puis de difficultés par rapport à ça, là. Puis c'est pas grave, là. Je pense que c'est juste intéressant puis important d'en prendre soin.
Définitivement. Puis est-ce que tu sembles le fait de des fois aborder quelqu'un sur ce sujet-là? Je sais que ça peut être quand même tabou, mais pour que tu aies passé un peu par là, est-ce que tu aurais aimé ça que quelqu'un vienne ouvrir une porte, ou t'aimes mieux que... Je sais que ça peut changer de personne en personne, mais est-ce qu'on devrait oser des fois cogner pour ouvrir, dire qu'on est là pour aider, ou on les laisse venir à nous? Je sais que c'est quand même c'est touchant un peu, puis c'est pas toujours une clé en main, mais pour avoir connu ça, t'aurais aimé ça, quelqu'un te tendre la main pour dire « je peux t'aider » ou...
Je pense que les gens qui m'ont aidé l'ont fait un peu par leur exemple, puis de façon je sentais pas qu'on m'enlevait mon autonomie ou la responsabilité de ce que je vivais. Donc, parce que, puis c'est normal, là, ça dépend des relations que les gens ont entre eux, mais souvent, on est quand on est à proximité, on s'inquiète beaucoup, puis moi, je me rappelle là, des personnes qui étaient plus près, mais j'avais l'impression qu'ils voulaient je me sentais comme si on me réprimandait, comme si j'avais 5 ans, puis ça m'aidait pas, là, c'était l'inverse. Donc, je pense que c'est bon, oui, d'ouvrir la porte, puis c'est bon de rester ouvert, puis on peut dire les choses, tu sais, si on les observe, mais peut-être dans l'accueil, justement, dans une perspective où on veut pas juger l'autre, mais vraiment lui tendre la main. Puis peut-être que la personne qui vit ces difficultés-là va pas répondre instantanément, sauf qu'elle va toujours se rappeler que quelqu'un lui a tendu la main. Puis ça, ben c'est certain que ça peut être juste ça, tu sais, qui va aider à passer au travers. Parce qu'il y a beaucoup d'étapes, puis c'est encore là, je pense que c'est un domaine où on apprend beaucoup, parce qu'il n'y a pas juste un schéma qui va expliquer ce qui se vit à travers ça. Là, il y a souvent tout un paquet d'histoires en arrière qui ont besoin d'être détricotées, puis un chemin à faire. C'est beaucoup aussi d'apprendre au niveau de l'estime de soi, par exemple, puis tranquillement. Quand on vit ça, quelque part, je pense que notre confiance aussi est affectée. Donc, il y a plein de choses qui se rebâtissent. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes autour qui peuvent être précieuses pour être des agents positifs. Mais il faut vraiment que la personne puisse sentir qu'elle a le pouvoir de se prendre en main aussi, en sachant qu'on est là.
Bien, merci de nous avoir donné ce portrait-là. Puis, on arrive près de la fin du segment. Moi, j'aime ça terminer avec des questions un peu plus ouvertes ou opposer deux choses ensemble. Comme on dit, tu essaies de trancher si tu veux, puis sinon, tu nous aiguilles vers un des deux côtés que tu aimerais avoir, ou tu sais simplement... exposer la question par rapport à ce que tu voudrais en retirer. Ça te convient?
Parfait, oui.
Moi, j'aime bien poser cette question fétiche-là. Si on tourne un globe terrestre, où est-ce que tu aimerais que ton doigt s'arrête pour faire une prochaine compétition ou aventure sportive?
Et je l'ai exprimé en ligne il y a 1 heure en Afrique.
En Afrique, y a-t-il une course particulière ou un endroit en Afrique que tu aimerais aller?
Pas spécifiquement. C'est sûr il y a aussi le coin du Maroc, le Marathon des Sables. J'aimerais beaucoup, mais la découverte, là.
Excellent. Un coin en Estrie qu'on devrait aller découvrir, soit en ski ou à la marche ou en course.
Les sentiers de l'Estrie, pour ceux qui peut-être veulent faire une balade un peu plus longue, sinon ben simplement d'entrer dans le parc par le biais de la montagne ou à la CEPAC, là, au cerisier qu'on appelle pour aller peut-être naviguer un peu sur les crêtes, si c'est pas déjà connu, c'est vraiment une belle aventure.
Après une grosse aventure dans un ultra, il y en a qui sont plus sucrés, il y en a qui sont plus salés, il y en a qui c'est un peu de tout. Toi, c'est quoi, tu t'aimerais se retrouver au ravitaillement pour récupérer ton grand plaisir
Pendant la course,
pendant la course, ouais.
j'aime beaucoup le salé. Il y a des formes de nouilles que j'aime, mais ça dépend. Ça dépend. Chocolat noir est toujours bienvenu aussi. Ouais.
Sinon, par rapport aux différents sports que tu fais, y a-tu des gens qui t'ont inspiré en pratiquant un d'entre eux ou qui t'ont motivé à vouloir poursuivre davantage dans un des divers domaines?
Oui, ben plusieurs athlètes là, que j'ai vus cheminer là, tant au Canada qu'à l'international. C'est sûr que tu sais, je suis un peu nos Olympiques aussi, mais je dirais c'est ce qui m'émeut particulièrement en fait, c'est de voir des gens qui ne n'ont pas nécessairement un bagage sportif, qui vont découvrir ça, puis qu'on va voir. Puis, tu sais, même dans des courses ici, là, dans ma région, que je vais voir vraiment se dépasser, puis aller au bout de leurs ressources, moi, ça me donne envie d'être une meilleure personne, puis de faire ce que je peux faire aussi au mieux. Je dirais, c'est toujours, toujours inspirant, tu sais, quand les athlètes professionnels et tout ça, mais de voir quelqu'un qui sort complètement de son cadre puis de sa zone de confort pour expérimenter quelque chose comme ça nous donne envie de le faire nous dans notre mesure.
Définitivement. La prochaine question, c'est comme un peu choisir, comme on dit, c'est son enfant préféré. Parmi tous les livres que tu as écrits, y en a-t-il un que peut-être qui fit mieux avec le moment actuel, que tu pourrais nous recommander à lire ou que tu dis, ah, ça pourrait être un incontournable par rapport où je suis tout simplement que tu es très fier d'avoir réussi à produire?
Ben, celui que je suis en train d'éditer.
OK. On a-tu droit
Mais.
à une salle par rapport à ça ou c'est encore.
Ben, oui, en fait, j'ai utilisé le récit, j'ai mis des pans de mon histoire aussi, puis j'ai parlé de certaines des aventures là, au niveau sportif. Donc, c'est vraiment une alternance entre. Le récit, ce qui est la course en ultra, puis ce que j'ai pu partager à différents moments avec différentes personnes. Je pense que ça va être, je dirais que ce serait ça dans les prochains mois.
Excellent, ça va être un livre à découvrir. Je vais aussi mettre en annexe avec la balado-diffusion différents liens envers soit ton blog si tu veux, puis par rapport aussi à tous les ouvrages que les gens seraient peut-être curieux d'aller se procurer ou du moins aller soit découvrir peut-être en, je sais pas si il y en a quelques bibliothèques qui ont acheté quelques ouvrages ou. Fait que je vais faire mettre les liens aux gens. Je
Oui.
termine tout le temps en disant que je donne le micro à la fin, à l'invité, parce que c'est tout le temps eux qui ont le dernier mot. Je te donne le micro. Le mot de la fin est à toi.
OK. Je ne suis pas certaine du moment où ça paraîtra, mais ce que j'ai envie peut-être de souligner, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de. Je sais que ça peut paraître très délicat en ce moment d'exprimer ça, mais qu'il y a vraiment quelque chose de formidable dans ce qu'on vit puis ce qui se passe. Pour moi, c'est vraiment une occasion de se rendre compte puis d'être plus conscient des richesses qu'on a, tu sais, autant à l'intérieur de nous que dans notre environnement. C'est sûr que peut-être en course à pied, on est privilégié en ce moment, quoique il se passe autre chose aussi, là. en skimo, c'est magique, là, vraiment magique. Là. Bon, j'ai eu une semaine incroyable là, en entraînement, mais de voir les petits trésors dans chaque moment. Je pense que c'est ça qui, à travers toute l'incertitude, puis des étapes qui seront de grands passages, que certains ont déjà vécu, qu'on vit et qu'on va revivre, tu sais, de pouvoir voir ces perles-là, puis en prendre soin, tu sais, c'est un cadeau inestimable. Puis je pense que, en tout cas, moi, à travers le sport, je retrouve l'opportunité de cultiver ça, puis de continuer d'être présente à ça. Puis ça donne envie de vivre, vraiment, vraiment. Voilà.
Et sur ces douces paroles-là, chers auditeurs, c'était Isabelle Bernier. Merci d'avoir pris du temps pour parler un peu des tranches de vie, de tes expériences et tout. Je suis certain que les auditeurs, ça va les avoir titillés, éveillés par rapport à différentes sphères qui vont vouloir aller sûrement en apprendre davantage sur tes divers périples. Je te souhaite une bonne fin de journée, puis un bon lever de soleil demain pour soit en haut de la familiale, en skimo, quelque chose comme ça pour mettre un petit sourire en coin.
Yeah, merci beaucoup, Julien.
Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast du racketeur Mascoutin. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à partager. De même que si vous avez des questions, des commentaires, des sujets auxquels vous aimeriez que je porte attention, simplement me faire signe. Ils vont me faire un immense plaisir de répondre et de vous élucider ou vous éclairer par rapport à ça. À la prochaine tout le monde et au plaisir de vous rencontrer sur les sentiers.